Le surlendemain, Labo, Merlet et quelques autres voisins se trouvaient réunis dans la cabane de la défunte, tandis que le juge de paix achevait le court inventaire de la succession. Ils avaient été convoqués en conseil de famille pour décider ce que l'on ferait de Georgie et pour lui nommer un tuteur. Ce dernier titre appartenait naturellement au gardien du vieux phare, qui était le seul parent de la palotte. Mais il était plus difficile de prendre un parti sur l'autre question. Chacun proposa en vain son expédient. Les uns parlèrent de placer Georgie dans une ferme de la paroisse où l'on lui donnerait sa nourriture, deux chemises de toile à Pâques et une paire de sabots à Noël. D'autres engagèrent Lavaux à envoyer pétrir la glaise au piperie, où elle pourrait gagner jusqu'à 6 sous par jour. Quelques-uns rappelèrent enfin que la nouvelle fabrique occupait des filles de son âge. Mais à chacune de ces propositions, Merlet opposa la paresse obstinée de l'orpheline et son inaptitude pour tout apprentissage. « Faut pas s'illusionner le raisonnement, dit-il en prenant une attitude oratoire. Pour la capacité et pour l'éducation, la créature ressemble plus à un corbeau de mer qu'à une chrétienne. Hormis boire et manger, elle n'a jamais pu apprendre à rien faire de ses 10 doigts. Or, j'ai souvent remarqué que l'oisiveté était la mère de tous les vices. Il est à présupposer que, si l'innocente est laissée à elle-même, tôt ou tard, il en résultera la perdition de son âme et de son corps. » Les voisins firent un signe d'assentissement, accompagné de murmures approbateurs. « Oh, c'est bien, » continua Morlaix, qui donna plus d'autorité à sa voix et qui élargit son geste comme tous les orateurs applaudis, « que certains pourront dire, puisqu'il y a un danger de la laisser libre, il faut l'enfermer. Mais moi, j'opine autrement. L'expérience m'a fait reconnaître que le seul moyen de ne pas tomber dans les extrêmes était de prendre un juste milieu. » Et pour lors, je dis que le vrai moyen d'arranger tout le monde est de faire recevoir la palotte à l'hospice du chef-lieu. » Il y eut un mouvement général d'approbation. Lavaux seul, qui avait jusqu'alors gardé le silence, releva la tête en se récriant. Pour lui, comme pour toute la portion du peuple de nos provinces, qui a conservé le sentiment de solidarité dans la famille, cette idée d'hospice entraînait une sorte de flétrissure. Aussi la rougeur lui monta aux joues et il jeta à Merlet un regard mécontent. « Mais qu'est-ce qui a dit que j'abandonnais Georgie ?» demanda-t-il brusquement. « Personne, répondit Merlet avec importance, mais j'aime à croire que vous ne voulez point par fausse gloire la garder à votre charge. Et pourquoi cela ?» Pourquoi ? Mais, probablement, mon cher, parce que les hospices sont faits pour les pauvres et les orphelins. Mais les hospices sont faits pour les vagabonds, les bâtards, s'écria le vieux marin. Georgie n'a pas besoin du pain d'aumône, elle a quelqu'un qui prendra soin d'elle. Je comprends les scrupules de Maître Lavaux, dit le juge de paix, qui venait de s'approcher et sa délicatesse l'honore. Mais a-t-il bien réfléchi à la responsabilité qu'il veut prendre ? Oui, répondit Simon. Et à qui compte-t-il confier la garde de sa nièce ? Voilà, reprit le gardien du vieux phare en hachant sa phrase comme un homme qui trouve difficilement ses mots. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Pas vrai, Robert ? Dis-leur que Marguerite prendra Georgie. « Minute !» interrompit le vieux pêcheur dont il venait d'indiquer le témoignage. « La femme a promis trop vite, maître Simon. »« Elle veut donc plus ?» demanda vivement le marin. « Oh, je lui pense là, » reprit Robert, « mais la palotte n'est pas de garde facile, savez-vous. Quand on répondra d'elle, il faudra y veiller. Ça veut du temps, et le temps, c'est de l'argent. »« M'étais-je proposé de la prendre pour rien ?» interrompit Lavaux. Le prix est convenu. Je sais, dit le pêcheur, qui roulait son bonnet avec un peu d'embarras. Mais tout de même, je voudrais demander quelque chose à monsieur le juge. Voyons, dit ce dernier. La palotte, continua le pêcheur, n'a aucun droit contre maître Simon. La loi ne l'oblige pas à nourrir sa nièce. Et ceux qui l'auront gardée dans leur logis ne pourront rien réclamer que de sa bonne volonté. Mais as-tu des raisons d'en douter? Demanda le marin. Oh, je ne dis pas ça, reprit Robert, mais monsieur le juge sait bien que la volonté, ça change. Des fois, on s'ennuie de donner, et des fois, on manque de monnaie, des fois, on meurt. Et pour l'heure, bonsoir, qui n'a point de droit, n'a point de recours, si bien que la palotte demeurerait à votre charge. Mais pourquoi cela? Ne pourriez-vous pas faire dans ce cas que maître Simon refuse de faire maintenant? Envoyez la fille à l'hospice, interrompit le pêcheur. Cela ne se pourrait plus. Quand une pauvre créature a dormi sous votre toit, qu'on s'est habitué à veiller sur elle, à lui rire, à la corriger comme sa propre fille, on ne peut pas s'en défaire ainsi à commandement. Ce n'est pas le tout de dire « je lui donne rien ». Il y a l'accoutumance, voyez-vous. Puis ses enfants, peu à peu, cela s'agrafe à votre cœur. On le résigne plutôt à la misère, et quand il ne reste plus qu'une bouchée de pain, on en fait deux morceaux. Mais c'est dur, pas moins de souffrir pour le sang d'un autre. Et c'est la raison pourquoi j'ai peur de trop m'engager. Alors, explique-toi, que veux-tu? Demanda l'aveu. Robert parut d'abord hésiter, puis se décida. Eh bien, dit-il, je voudrais, avant de prendre Georgie à ma charge, être un peu garanti pour l'avenir. Mais comment? Oh, par exemple, au moyen d'une avance. Le gardien du vieux phare fouilla dans la poche de sa veste et en tira deux pièces de 5 francs qu'il jeta sur la table. Voici la fin de mon argent du mois, dit-il. Prends pour la fille, le reste a servi pour la mère. Robert secoua la tête. Mais quand je le prendrai, maître Simon serait plus pauvre et je me trouverai guère plus riche, répliqua-t-il. Ainsi tu refuses, s'écria le marin. Oui, bien malgré moi. Alors tu doutes de ma parole? Non, mais je voudrais avoir une caution. Et où diable veux-tu qu'il la trouve? S'écria Merlet en haussant les épaules. Où? Répéta Simon. Mais par Dieu, ici, elle est trouvée, et la voilà. Et arrachant de sa veste la croix qu'il présenta à Robert, garde-moi cela, dit-il, et si jamais j'oublie de te payer la pension de Georgie, viens me la montrer, et si je te renvoie, va la vendre. C'est mon honneur que je te donne en langage. Cela te suffit-il?
Cela me suffit, maître Simon, répondit le pêcheur ému. Alors, tout est dit, ramasse ta caution et emmène la fille.
Mais celle-ci n'était déjà plus dans la cabane. Arrivée pendant l'inventaire, elle avait tout observé avec une curiosité étonnée, jusqu'au moment où on avait ouvert un petit coffret renfermant les humbles archives de la morte. Là se trouvait, parmi les actes qui constataient son mariage et la naissance de ses enfants, une bague de cuivre et une petite médaille de plomb recueillie sur le cadavre de Donatien lorsque le flot l'avait rapporté au rivage. Conservée par Madeleine comme un cruel et cher souvenir, elles avaient été reconnues par Georgie, qui fut saisie à leur vue d'un invincible désir de les posséder. Elle attendit en conséquence, accroupie dans un coin de la cabane, que l'attention se fût portée ailleurs, puis rampant avec une adresse de sauvage jusqu'à l'armoire entr'ouverte, elle glissa la main dans le coffret, saisit les 2 souvenirs convoités et gagna la porte sans être aperçue. Elle traversa en courant plusieurs ruelles, les mains serrées sur le petit châle de cotonnade qui cachait son innocent larcin, tourna la jetée et arriva à la grève jusqu'à l'un des grands roches qui bordaient le rivage. Grâce au déplacement des eaux, cette masse jaunâtre, autrefois crénelée par la vague, se dressait maintenant à une portée de mousquet des plus autres marées. Les algues marines qui la tapissaient naguère étaient remplacées par de pâles traînées de lichens et de mousses fauves.
Un enfoncement creusé dans la face qui regardait la mer avait été adopté pour foyer par les caboteurs, ce qui lui avait fait donner le nom de roc brûlé. Quelques équipages y établissaient leur cuisine pour économiser les frais de chaudière dans les cabarets du port, et tous y faisaient fondre le vrai destiné à recouvrir les coutures ou du navire navigué par la mer. Dans ce moment même, Maître Bardanou et deux de ses matelots, Lousteau et Bragantal, s'y trouvaient réunis autour d'un feu près de s'éteindre et devant une marmite de fer d'où s'exhalait l'odeur du goudron. La bisquine, échouée à une centaine de pas, montrait ses flancs diaprés de lignes brillantes qui indiquaient un calfeutrage récent. Les trois provençaux venaient d'achever la bouillabaisse qui leur avait servi de souper. Le capitaine de la Victorieuse fumait, tandis que les deux autres marins, assis sur le sable fin de la grève, s'étaient remis à préparer du filin. Georgie, qui arrivait à la Grande Roche par le côté opposé, ne les aperçut pas. Elle se glissa entre deux espèces de contreforts, céda des aspérités de la pierre pour atteindre le plus haut et disparut parmi les crêtes déchiquetées qui couronnaient la falaise granitique. Au centre même s'ouvrait une large fissure par laquelle la jeune fille se laissa glisser jusqu'à une petite grotte intérieure, autrefois creusée par les flots et découverte par Donatien en cherchant des nids de goélands. Dans ses différentes fuites de chez sa mère, c'était là qu'elle avait trouvé une retraite, et elle y revenait encore souvent rêver, dormir ou penser à son frère mort, car Madeleine n'avait rien exagéré en parlant de la préférence de Georgie pour Donatien. Il avait été le premier ou plutôt le seul attachement de sa vie. Tout ce qu'il y avait chez elle d'ardeur, de jugement, de souvenir, se rattachait plus ou moins directement à son compagnon d'enfance. Hors de là, tout rentrait dans le vague domaine de l'instinct. Cette âme, qui semblait être sortie des limbes encore endormie, s'était un instant éveillée à la voix de Donna. Elle avait quelque temps vu et compris, non par elle-même, mais par lui. C'était seulement quand il était mort que la nuit s'était faite de nouveau, et que Georgie avait tout perdu, tout, sauf je ne sais quelle mystérieuse communication avec la nature. Étrangère aux hommes, la palotte ne l'était ni au vent, ni au flot, ni aux nuées. La voix de la création réveillait en elle mille échos. Elle aimait à l'entendre, elle y mêlait les modulations sans règle de sa propre voix. On eût dit que, bercée sur le sein de cette grande nourrice commune, elle conversait avec elle, comme l'enfant avec sa mère, par des balbutiements confus mais joyeux. Cette perception instinctive et le souvenir de Donatien formaient, à vrai dire, toute l'âme de Georgie. Mais ce dernier souvenir avait une ténacité vivace contre laquelle le temps ne pouvait rien. Loin de s'être affaibli à la longue, son attachement pour Donna avait paru grandir dans la séparation de la tombe, comme il eût fait dans l'intimité journalière de la vie. Sans aucune des distractions qui dissipent le cœur, n'ayant qu'un sentiment, aucune idée, la palotte avait continué à s'occuper de son frère comme s'il eût été là. Incapable d'aller plus loin que le présent, son esprit n'avait jamais bien saisi ce qu'il y avait d'absolu dans ce mot de mort. Pour elle, c'était moins la disparition éternelle que l'absence. Cette absence pouvait lui être parfois une cuisante douleur. Quand la conscience de son isolement se réveillait plus nette et plus vive, elle entrait dans de subits désespoirs qui lui faisaient pousser des cris et se rouler sur la terre. Rien alors n'eût pu la consoler. C'était le chien qui pleure son maître et ne comprend point la voix qui lui parle. Mais, ses larmes épuisées, elle reprenait toute sa tranquillité. Du reste, aux heures de tristesse comme aux heures de joie, la grotte du rocher était le lieu ordinaire où elle aimait à se réfugier. Elle y avait réuni toutes ses pauvres richesses, soigneusement ensevelies sous le sable. C'était une petite croix qu'elle tenait de Madeleine, un chapelet donné par son oncle Simon, une branche de buis bénie par le curé le jour des rameaux, et quelques coquillages bizarres recueillis sur la grève aux grandes reverdies. Elle venait y ajouter la médaille et l'anneau de Donna. Après avoir retrouvé son trésor enfoui, elle l'étala devant elle et, couchée sur quelques brins de varech desséchés, elle se mit à examiner chaque objet l'un après l'autre. Cette revue, qui se renouvelait de loin en loin, était habituellement pour l'intelligence de Georgie une occasion de réveil. À l'aspect de ses souvenirs, mille images du passé se soulevaient et tourbillonnaient confusément dans sa mémoire. Elle allait alors de l'une à l'autre sans s'arrêter à aucune et entrevoyait, çà et là, mille perspectives aussitôt évanouies. C'est une sorte de rêve dont elle se donnait la fête à ses heures de lucidité et qu'elle s'efforçait de prolonger, d'autant qu'au milieu de sa confusion, une image surnageait toujours et reparaissait sans cesse pour éclipser toutes les autres, celle de Donatien. Dans tous ses retours en arrière, son doux fantôme se redressait, souriant comme un souvenir d'affection, de bien-être, de liberté. Tant qu'il avait vécu, en effet, Georgie, encore enfant, avait été abandonné au courant de ses fantaisies. Et c'était seulement après la mort de Donatien que Madeleine avait voulu lui imposer le joug du travail, si bien qu'une coïncidence confondait dans la mémoire de la pauvre fille l'image de Donna et celle de ses heureuses années. Il avait été le Saturne de cet âge d'or. Aussi sa pensée se mêlait-elle inévitablement à toutes les douces réminiscences. Elle flottait sur le passé à la manière de ces étoiles par lesquelles tout s'illumine autour de nous d'une charmante lueur. Il y avait déjà longtemps que la palotte se tenait là couchée sur le sable fin de la grotte et dans le demi-sommeil de la rêverie, quand des voix, dont l'accent s'élevait, lui firent relever la tête. Une paroi de médiocre épaisseur séparait sa retraite de l'enfoncement fréquenté par les caboteurs. Georgie approcha son œil d'une fente qui, grâce à l'obscurité de la grotte, permettait de voir au dehors sans être vu, et reconnut Martin Bardanou avec ses deux matelots. Le capitaine provençal semblait en proie à la double excitation de l'ivresse et de la colère. C'étaient ces malédictions furieuses qui venaient d'attirer l'attention de Georgie. Quelques jours auparavant, on l'avait chassé de la grande auberge de l'Aigle d'Or avec ses gens, et le souvenir de cet affront l'exaltait jusqu'à la fureur. « Que le tonnerre du firmament me fasse poussière, si je ne me venge pas !» s'écria-t-il en frappant du poing la gamelle retournée. « Ah, cette racaille de Ponantais !» dit Lousteau. « Ils sont fiers d'avoir eu le dessus, parce qu'ils étaient 10 contre 3. » Maragandal, qui dordait un filin sur sa cuisse, haussa les épaules. « Qu'est-ce que je t'ai répété 100 fois, dit-il d'un ton superbe, que tout ce qui n'était pas provençal devait être attelé en guise de limonier. Aussi bien, oh, si j'étais roi de France, je mettrais ces lascars du Ponant hors l'humanité. Bref, rangé parmi les brutes, et le bon Dieu en rirait. » « Oui, oui, reprit Bardanon, mais entendant... Il faut que j'en extermine. C'est un besoin, voyez-vous. Cela me court dans les veines, cela me crie dans les entrailles. » Le premier matelot le regarda en riant. « Ah ça, capitaine, dit-il, mais c'est donc une maladie. Je comprends que Port Nantais prenne toujours sur les nerfs, mais il me paraît que vous avez une préférence pour ceci. » « Oh, ça date de mon premier voyage, » répondit Bardanou. « Ah, ah, voyez-vous, il pourrait donc savoir la cause sans vous commander. »« La cause, » répéta le capitaine, « la cause, c'est tout. La première fois que je suis entré dans leur gueux de porc, voilà 12 ans, j'ai vu que c'était des brigands. » Ah, bah, et chaque fois que je leur parlais, je les voyais ricaner. Et quand je leur demandais pourquoi, ils me répondaient que c'était à cause de mon accent. Les deux matelots se récrièrent. Comprenez-vous, reprit Bardanoux en jurant. Les imbéciles me trouvaient de l'accent. Ils ne sentaient pas que c'était eux qui en avaient. J'ai reconnu sur le quart d'heure que j'étais dans un pays de sauvages. Et le capitaine les a traités en conséquence, reprit Bragantal. On en a montré un l'autre jour qu'il a drôlement arrangé. Oh, le borgne, demanda Barnadoux, avec un sourire de satisfaction féroce. Non, un boiteux. Oh, je sais. Oh, celui-là est d'une autre année. Il paraît qu'à chaque voyage, le capitaine laisse de ses marques. Si cela continue, il fera du pays un hospice d'infirme. Eh bien, ils n'auront pas volé, reprit Lousteau, après les désagréments qu'ils ont causés au capitaine. Pour son accent, oh, et pour autre chose encore, pour la femme du charpentier. Le provençal qui allait porter le verre à ses lèvres tressaillit. Qu'est-ce qui t'a dit cela? S'écria-t-il en pâlissant. Par Dieu, c'est l'autre jour qu'on en causait à la grande auberge, reprit le matelot. Ils m'ont raconté le rendez-vous donné à la femme où vous avez trouvé la Marie. Bardanoux fit un mouvement. Il paraîtrait même que tous les gens du port étaient avertis et qu'ils se tenaient à la porte pour voir manœuvrer la trique du charpentier. Le capitaine a donc été battu? Demanda Bragantal. Et reconduit jusqu'au navire à coups de pierre par les voisins, acheva Lousteau. Oh bien, je comprends à cette heure qu'il ait besoin de les exterminer, s'écria le matelot. Tonnerre du ciel, en voilà un affront, et pensez que vous n'avez pas pu vous revenger, capitaine. Qu'est-ce qui t'a dit cela, Lascar? Répliqua Bardanoux, les lèvres tremblantes et l'œil enflammé. Très dame, je le sais, puisque le charpentier est parti pour Nantes où il fait fortune. Oui, mais le vrai auteur de l'affront était celui qui avait découvert la chose et averti les voleurs. Et qui donc? Un méchant bousse à peine sevré, le fils de la vieille drôlesse qui a été enterrée ce matin. Et celui-là, le capitaine, a pu lui donner une leçon? Un éclair de férocité triomphante traversa le visage de Martin Bardanoux. « Celui-là, répéta-t-il en ricanant, savez-vous où il était quelques jours après l'aventure? Et où donc? Mais à Saint-Brace sous l'eau. » Les deux matelots redressèrent la tête. « Et c'est le capitaine? » s'écrièrent-ils en même temps. Le provençal sourit. Non, reprit-il d'un accent ironique, accident de mer, comme on dit sur les lèvres livres de Locke. Je revenais un soir de la fabrique dans le canot, quand j'aperçois, au milieu de la brume, une mauvaise barque qui naviguait au plus près, et je reconnais à la barre ce brigand de Donatien. Il dormait, je suppose, quand j'arrivais sur lui, grand large, sans qu'il eût l'air de s'en apercevoir. Je pensais à moi-même. Pour être si distrait, il faut que le gueux soit occupé de l'histoire de la charpentière. Alors naturellement, cela me monte les nerfs. J'avançais toujours à sa rencontre. Ma foi, comme mon canot était neuf et que sa barque pourrie, je me dis, après tout, la mer est un grand chemin et on ne se dérange que pour ses amis. Je serre l'écoute et je laisse porter sur le bateau. Oh, ce fut l'affaire de rien. Au moment de l'abordage, j'entendis un cri, la voile pencha, puis disparut brusquement. L'embarcation avait coulé comme un panier. Ici, une exclamation étouffée retentit sous le rocher. Bardanoux tressaillit et releva la tête. Mais n'apercevant que les deux matelots, il crut qu'elle était échappée à l'un d'eux. « Eh bien quoi? Qu'est-ce qui t'étonne, toi? » dit-il en fixant sur Bragantin des yeux menaçants. « Oh, rien, capitaine, » répondit le matelot embarrassé. « Mais est-ce que j'étais donc pas dans mon droit, et c'était à moi de m'occuper de la barque des autres? Non, je ne dis pas cela. Après tout, qu'est-ce qu'il y a, voyons? Un chaland nous prenant tête moins. « C'est juste, » dit Lousteau, « mais tout de même, il ferait pas bon pour le capitaine si on savait la chose dans le pays. » « Est-ce que tu comptes la répéter ?» demanda Bardanoux, qui qui commençait à sentir ce que sa confidence avait eu d'imprudent. « Par tous les noms du diable, si je te croyais, tu ne reverrais jamais la canebière. Bon, soyez donc calme, on sait parler, on sait se taire, » dit le matelot, qui voulait évidemment éviter une querelle. « Prends-y garde, » reprit Martin Bardanoux en insistant. « Tu sais que je ne vaux rien. » « Bon, c'est connu, capitaine. Et pour l'heure, ne l'oublie pas. Veille au grain et tiens ta langue à la cape. Si on ne taquinait jamais à propos de ce Donatien, cela serait arrangé entre nous trois, vu que toi et Bragantal, vous êtes les seuls à savoir l'affaire. » Bardanoux se trompait. Il avait à son insu, pour troisième confident, la Palotte, qui avait tout entendu. Elle ne comprit pas bien au premier instant. Les perceptions arrivaient embrouillées à son esprit, et le plus souvent y restaient comme enfouies. Il fallut l'intérêt tout particulier qu'elle prenait à Donna pour l'amener à une volonté de réflexion qui put lui éclaircir la confidence du Provençal. Elle s'efforça de fixer sa pensée. Elle se rappela, elle comprit. Ce fut pour elle toute une révolution intérieure. Et après la découverte lentement achevée, vint un ressouvenir douloureux de la mort de son frère, puis le désir de le venger. Ce dernier sentiment fut bientôt oublier les autres. Ce fut comme une flamme qui gagnait le proche en proche et finissait par tout envelopper. Le propre de ces natures incomplètes est de n'avoir place que pour une idée ou une passion et de s'y donner tout entière. Une fois saisie de cette pensée de vengeance, Georgie ne s'en laissa plus détourner. Elle chercha longtemps les moyens de la réaliser, combina son plan et en régla les détails avec la minutieuse patience des esprits bornés, puis attendit silencieusement l'heure de l'exécution. Accroupie dans sa mystérieuse retraite, elle vit les rayons du soleil couchant qui glissaient à travers les fentes du rocher se raccourcir et s'éteindre. Elle entendit le son des trompes marines rappeler les vagues errantes des dunes à l'étable. Enfin, quand le coin du ciel qui lui apparaissait par l'ouverture de la grotte se fut pailleté d'innombrables étoiles, elle se leva lentement et descendit avec précaution jusqu'à la grève. Elle tourna sans bruit le rocher et s'avança vers l'enfoncement où 2 heures auparavant l'équipage de la Biskine se trouvait réuni. La place était alors déserte. Sous l'arcade de granit noirci par la fumée, quelques débris de planches indiquaient l'endroit où le feu avait été allumé. Georgie s'agenouilla devant les cendres amoncelées, les écarta avec soin, retrouva quelques étincelles qui brillèrent dans l'obscurité, rapprocha les esquilles de sapin et en les attisant doucement de son haleine, ranima le foyer éteint. Elle se retourna enfin du côté de la mer. On voyait se dessiner dans l'ombre la silhouette de la Biskine renversée sur le flanc. Elle s'en approcha sans bruit, fit le tour du navire échoué et prêta l'oreille. Aucun bruit ne se faisait entendre à bord. Le chien lui-même, qui d'habitude couchait près de la barre du gouvernail et grondait à la moindre approche, ne s'y trouvait point ce soir-là. Son maître l'avait vraisemblablement appelé. Il dormait près de lui dans la cabine. Rassurée de ce côté, la Palotte se retourna vers le port. La jetée était également abandonnée. Au loin seulement, vers l'extrémité des quais, la grande auberge restait encore éclairée et le douanier de garde se promenait lentement devant sa hutte de planches. Après avoir hésité un instant, Georgie retourna au rocher et s'assit devant le foyer dont la flamme commençait à trembloter au vent du soir. Les yeux fixés vers le port, elle vit les fenêtres de l'auberge devenir obscures comme celles des autres maisons, et le douanier, fatigué de sa pantière, rentrait dans la cabane. Il y eut alors comme une longue pause pendant laquelle tout resta désert et muet. La Palotte eut beau regarder, écouter, elle ne vit d'autre mouvement que celui des vagues qui s'agitait au loin, elle n'entendit que la rumeur confuse des mille insectes qui poursuivaient dans le sable des grèves leur travail mystérieux. Tout à coup, 11 heures sonnèrent à l'église. Les vibrations de l'horloge retentirent dans la nuit et s'y éteignirent sans rien réveiller. Georgie parut alors se décider. Elle saisit les deux tisons les mieux enflammés, se redressa lentement et s'avança vers le navire. Livrée à une sorte d'exaltation égarée, elle psalmodiait à demi-voix l'hymne funèbre dont elle avait fait son chant favori, en y entremêlant des mots de souvenir ou de menace. Seule ainsi, au milieu de la nuit, glissant sur le sable, les mains armées de flammes et murmurant son air de mort, on l'eut prise pour cette fée de la Lave que les celtes de l'Armorique invoquent encore sur quelques-unes de leurs collines dépouillées. De profundis clamavi a te. Je viens, je viens, je viens, répétait-elle tout bas. Fiant aures tuae iniendes. Ils ont mis Dola sous l'eau, moi, oh, je les mettrai dans le feu. Quia put dominum misericordia. Souffle, bon vent, souffle comme le jour où je revenais avec Donna. Elle était arrivée près de la bisquine, qu'elle longea en cherchant l'endroit le plus favorable. Les flancs de la barque, desséchés la veille par le chauffage et brillant de braies encore humides, semblaient préparés pour l'incendie. Mais il fallait que celui-ci fût assez rapide pour surprendre le meurtrier de Donatien dans son sommeil et lui rendre la fuite impossible. L'un par l'autre vint plusieurs fois sur ses pas, comme si elle hésitait à choisir. Enfin, elle s'arrêta à la poupe et en approcha un des tisons. Au premier contact, le bitume s'alluma avec un léger pétillement et la flamme, suivant la couture récemment calfatée, s'élança le long de la carène comme une ligne de feu. Georgie ne put retenir une exclamation de joie. « il brûle !» psalmodia-t-elle en riant. « Ah bah ah, soutenuit et dominé, Donna sera content !» Elle avait approché le second tison et un nouveau cercle enflammé commençait à courir quand un bruit de pas retentit au détour de la jetée. Occupée de son œuvre de destruction, la palotte n'y prit point garde. Cependant, les pas approchaient. Et tout à coup, deux cris partirent. Georgie se retourna effrayé et voulut fuir. Il était déjà trop tard. La main de Maître Simon venait de la saisir. « Mais que fais-tu là, malheureuse ?» s'écria le vieux marin. Par Dieu, vous le voyez, dit Merlet, elle met le feu au navire de Bardanou. Mais par le ciel, c'est la vérité, je vois la flamme briller. Au nom de Dieu, maître Jacques, avertissez l'équipage. Oh, c'est inutile, j'entends le capitaine appeler, il s'en aperçut de la chose. Il faut aller à lui, reprit vivement Lavaux en faisant un pas vers l'échelle de la bisquine. Mais le patron l'arrêta. C'est-à-dire qu'il faut filer son nœud, dit-il à voix basse et en l'entraînant. Que Dieu nous assiste. Voulez-vous être vu par le Provençal pour qu'il nous accuse d'avoir mis le feu? Mais en lui expliquant tout, mais il enverra la palotte devant les juges. Écoutez, voilà leur chien qui aboie. Ils n'auront pas de peine à tout éteindre seul. Allez vite, vite, embarque. Il fait pas bon ici pour nous. Il entraîna Simon et tous deux atteignirent la petite crique où le canot se trouvait à la flot sous la garde du matelot Nigo qui avait tout préparé pour le départ. Lavaux y poussa Georgie, la barque déborda, les voiles furent hissées et le patron mit le cap sur le vieux phare. Ce fut alors seulement que Simon et lui voulurent interroger la palotte au sujet de l'étrange tentative qu'ils venaient de prévenir. Mais tous leurs efforts furent inutiles. À partir du moment où elle l'avait surprise, elle était retombée dans son abrutissement muet. Assise au fond de la barque, le corps droit, l'œil fixe et arrondi, elle ne semblait rien comprendre de ce qui lui était demandé. L'indignation du vieux marin s'amortit forcément contre cette inertie hébétée. « Mais Dieu me donne, » dit-il en pliant les épaules, « elle n'a même pas l'air de s'apercevoir que je lui parle. » Merlet hocha la tête d'un air capable. « Que voulez-vous ? » répliqua-t-il. « Ça n'a pas plus de conscience de ses actions que l'enfant qui vient de naître. Mais pas moins, nous sommes arrivés au bon moment. Un quart d'heure plus tard, les provinciaux étant fumés dans leur contrepont comme des renards dans leur terrier. Oh, grâce à Dieu, il ne paraît pas qu'il leur soit arrivé malheur, » fit observer Simon, qui regardait vers le port. S'il n'avait pas été maître de l'incendie, on verrait d'ici la flamme. Bon, soyez donc paisible, reprit Merlet avec une fine grimace. Bordeaux est trop diable pour que le feu lui porte quelque nuisance. Il doit être dans la braise comme le poisson dans la mer. Ce que je crains, c'est qu'il le soupçonne quelque chose et qu'il ne dénonce la palotte. « Que pourrait-on faire à une malheureuse dont l'esprit n'a pas Dieu ?» dit le marin. Merlet reloua la tête en grommelant. « on sait pas, » dit-il. « Les juges ont des idées. Sans compter que la loi sur les incendiaires n'est pas douce, savez-vous. Les galères ou la guillotine. Est-ce possible ? Mais comme j'ai l'honneur de vous le dire, si on en venait là, vous concevez quel désagrément pour elle et pour vous. Oh non, 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 cela ne peut pas être, cela ne sera pas, interrompit brusquement Lavaux, comme s'il se parlait à lui-même. Oh non, quand je devrais la noyer de mes mains. Elle d'abord, moi ensuite, hein, mais il n'y a rien à craindre, pas vrai, maître Jacques, nous sommes seuls à l'avoir vue. « Autant qu'un homme peut jurer, j'en jurerai, » répondit prétentieusement le patron. « Cependant, si vous m'en croyez, vous garderez Georgie là-bas. »« Au phare ?» répéta Simon. « Mais c'est contraire au règlement. »« Mais c'est conforme à la prudence, » ajouta Brulet. « Si on la voit, on peut la soupçonner. »« Tandis que si elle est absente, personne ne pensera à elle. » Bardanou part dans quelques jours et à mon prochain voyage au phare, je pourrai la prendre pour la ramener à Robert. Malgré son respect pour la consigne, Lavaux sentit la sagesse du conseil. L'idée de voir la fille de sa sœur en prison, soumise à un jugement, condamnée peut-être, lui inspirait d'ailleurs une épouvante qui lui fait tout accepter. Merlet et Rigaud promirent d'être discrets. Quant au gardien, qu'il avait remplacé pendant quelques jours au vieux phare, il fut convenu qu'on lui cacherait l'arrivée de l'orpheline. Il suffit pour cela de la déposer sur l'extrémité de l'îlot opposé à la cale de débarquement, puis de gagner cette dernière, où le remplaçant de Simon accourut bientôt, ravi d'être relevé de sa garde solitaire. Il aida le patron à mettre à terre les provisions de la semaine, prit rapidement congé, puis entra dans le canot qui poussa au large. Le vieux marin attendit que la voile ne fût plus qu'un point blanc, presque perdu dans l'espace, et descendant alors vers les roches où Georgie avait été débarqué, il l'appela et la fit entrer dans la tour qui servait en même temps d'habitation et de phare.